L'escale des aidants, c'est un lieu d'accueil et d'accompagnement des aidants ligériens qui ouvrira ses portes en début 2022. Et c'est l'association d'Anna Ecker qui développe ce projet, parmi de nombreux autres d'ailleurs. Et nous allons découvrir un peu ce qu'est d'Anna Ecker avec un des fondateurs, c'est André Simonet qui est au micro. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Alors, qu'est-ce que d'Anna Ecker ?
Donc on est une association qui existe depuis 2012 et on travaille principalement sur l'impact des mutations de la relation humaine dans la santé. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand la relation soignant-patient-aidant, soignant-soignant ou soignant-direction, s'humanise ? Et quels sont les impacts sur les soignants ? Perte du sens du métier, dépression, suicide, reconversion professionnelle, arrêt maladie. Les impacts sur les patients, acceptabilité du traitement, c'est plutôt un sujet d'actualité. Réorientation vers des médecines très très alternatives, très très parallèles. Et aussi, du coup, reconsultation, re-imagerie, re-analyse. Donc tout ça a aussi des impacts sur le champ de la santé publique et l'économie de la santé.
Alors pourquoi avoir créé finalement d'Anna Ecker ? Quelle est l'idée et ce point de départ qui en 2012 ?
À titre personnel, on a eu plusieurs expériences en tant que patient, comme tout le monde, dès la naissance, je pense. Et surtout, on s'est beaucoup posé la question de quels étaient les impacts de cette déshumanisation apparente sur les soignants. Donc on est parti dans différents pays, une douzaine de pays, on est resté 3-4 mois par pays, pour aller questionner sur quelles sont les tendances de cette humanisation ou déshumanisation et les impacts. Donc c'était plutôt en Inde, à Bhopal, pour ceux qui se souviennent, à Kaboul, en Afghanistan, en Uruguay, Paraguay, Brésil, Argentine, Chili, Cuba, France, Liban, Émirats Arabes Unis, Suisse, Belgique, oui j'ai dit, dans l'objectif d'aller questionner ceux qui forment, organisent et pratiquent la santé, afin de comprendre voilà, pour eux quels étaient les impacts et qu'est-ce qui pouvait être fait. Et surtout, encore plus intéressant, qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas faire.
Alors, de ces expériences et ces analyses internationales, vous vous trouvez ici à Saint-Étienne avec ce projet, l'escale des aidants, on va en parler. Mais voilà, quand on collecte tous ces témoignages, quand on fait toutes ces analyses-là, qu'est-ce que vous en faites et puis à qui vous transmettez finalement le fruit de vos recherches ?
Tout l'enjeu pour nous était... Ben déjà, on s'est installé en 2018 sur Saint-Étienne pour porter différentes actions. La première était principalement articulée autour du monde universitaire, en mobilisant différents domaines de recherche en sciences humaines et sociales, comme le management des organisations de la santé, la santé publique, sociologie de la santé, économie de la santé. Donc on travaille avec différentes universités, Saint-Étienne-Clermont-Lyon. Et en fin de compte, ces différentes recherches trouvaient une certaine écho auprès de... des programmes de santé publique, des plans de santé publique qui doivent être développés sur les futures années, notamment sur la question des aidants.
Alors cette question-là des aidants, vous en emparez avec l'escale des aidants. Ça va être un lieu ressource, un lieu réel aussi d'accueil et des équipes. On va le développer tout à l'heure. Mais pour comprendre, qu'est-ce qu'un aidant qui mettons derrière ce mot-là ?
Alors la définition n'est pas encore vraiment arrêtée pour les institutions. Elle varie légèrement, mais concrètement, c'est une personne qui prend soin d'un proche pour des raisons de santé, de manière bénévole et gratuite. Ça peut être un enfant pour ses parents, les parents pour les enfants, le frère, le voisin, le cousin, mais il n'y a aucune transaction monétaire qui est, il n'y a aucune relation professionnelle derrière.
Alors pourquoi aujourd'hui on prend en compte finalement ces personnes-là et avec ce nom-là, et pourquoi des politiques publiques vous accompagne dans le développement de ce genre d'initiative et cette escale des aidants avec toute l'équipe qui va accompagner.
C'est vrai que c'est l'un des points centraux. En fait, le système de santé aujourd'hui diminue l'importance de l'hospitalisation, augmente l'importance du domicile. Et quand on parle du domicile, on parle forcément des aidants. C'est là qui est plutôt intéressant de comprendre que la volonté politique d'avoir fait des économies sur le monde hospitalier réoriente une partie de ses fonds vers la thématique des aidants, vers les aidants, via le développement de dispositifs d'aide et d'accompagnement et de reconnaissance du statut pour eux.
Alors, ça sera quoi l'escale des aidants ?
L'escale des aidants, ça va être c'est un dispositif en trois axes. Le premier, c'est un lieu physique pour accueillir les aidants de la Loire et les orienter, type guichet unique. Il y aura un ou une assistante sociale qui sera là pour pouvoir vous accueillir et vous orienter. Ça va être aussi une plateforme numérique pour pouvoir toucher le plus grand nombre, H24, 7 sur 7. Mais on sait tous que le numérique a aussi des limites, c'est pourquoi on a développé une équipe mobile avec un bus et on va pouvoir faire des stands dans les villages les plus reculés de la Loire toute l'année et aller faire du porte-à-porte pour aller vraiment dans les petits hameaux rencontrer les personnes les plus isolées.
Alors pourquoi rencontrer ces personnes ? Quel va être finalement l'objectif de vos équipes mobiles si on parle de celles-ci ?
L'une des grandes problématiques sur l'organisation d'une filière pour les aidants, c'est de faire venir les aidants. 60% des aidants ne se reconnaissent pas aidants. C'est normal d'aider sa maman, c'est normal d'aider son frère, sa sœur. Et en fin de compte, en s'en arrêtant à c'est normal, on ne va pas aller demander de l'aide, on ne va pas se reconnaître dans le statut aidant. Et si on ne demande pas de l'aide, généralement, au bout d'un certain temps, on trouve des solutions un peu alternatives. Je vais mettre à mi-temps, je vais me rapprocher, je vais déménager, je vais prendre du temps sur mes études. Et en fin de compte, on arrive à des solutions artisanales qui vont amener la personne progressivement dans une certaine forme de précarité. Et au bout d'un an ou deux, généralement, les personnes arrivent à une certaine forme d'épuisement physique, psychique, émotionnel, voire même économique. Et généralement, les aidants prennent conscience d'être aidants quand ils sont en phase de rupture. Et c'est compliqué, en fin de compte, de les accompagner correctement, donc quid de l'aidant, et aussi quid de l'aider. Mettre aux urgences, c'est pas le meilleur endroit. C'est pas là où il devrait être. C'est ni bon pour le système, ni bon pour l'aidant, ni bon pour les professionnels.
Alors, l'accompagnement qui va se faire, ça va être quoi ? Des discussions, des rencontres, des moments où on pourra aussi se soulager de cette charge ?
Alors, l'escale des aidants a deux objectifs. Le premier, c'est orienter les aidants sur les dispositifs existants. Un rôle d'aiguillage, parce qu'en fin de compte, personne ne sait vraiment qui fait quoi comment sur tout le territoire. Il y a énormément de dispositifs qui naissent, qui meurent, qui changent, qui mutent, et tous sont silotés plus ou moins par pathologie. L'objectif pour nous est d'avoir une réflexion plutôt transpathologique sur l'accompagnement des aidants et sur leur parcours, et d'aider les professionnels de santé à prendre en compte les aidants, pour pas que le professionnel de santé, le pharmacien par exemple, voilà, le pharmacien lui ne peut pas être au courant de l'intégralité des actions de toutes les associations du territoire. C'est juste impossible, c'est même pas son métier, c'est même pas souhaitable. Par contre, s'il rencontre un aidant, il aura juste à l'orienter vers l'escale des aidants. Et de là, nous, notre travail, c'est de l'orienter en fonction des besoins. Ça peut être des besoins pratico-pratiques. J'ai 80 ans, j'aide ma femme à prendre son bain ou sa douche, mais j'ai une baignoire, je ne peux plus la porter. Comment je fais pour changer la baignoire en douche ? Ça peut être aider ses enfants au niveau scolaire. Comment est-ce qu'on contacte les académies pour avoir des aménagements de cours ? Il y a vraiment des cas particuliers, que ce soit dans l'aide... dans la logistique, l'organisation des soins à domicile, le soutien moral, où les aidants peuvent être accompagnés pour pouvoir faire en sorte qu'ils continuent à savourer ce moment-là d'aidance.
Alors, ça ouvrira donc en 2022.
Oui, en février.
Le travail a commencé quand sur ce repérage, dans ce réseau ? Vous avez, j'imagine, sillonné le territoire. À quel moment vous avez commencé à repérer ça ? Et vous expliquiez tout à l'heure que des structures existent, se montent, disparaissent. Est-ce que ça aussi, vous l'avez réellement constaté depuis l'idée de cette création de l'escale des aidants ?
Vu que le statut est en pleine évolution ces dernières années, il y a énormément de nouveaux dispositifs qui se crée, vu qu'il y a une perte de peu de visibilité sur qui fait quoi comment, il y en a beaucoup qui meurent dans l'œuf, généralement. Et ça, c'est en fin de compte un problème pour les professionnels de santé et pour les aidants, parce qu'en termes de parcours, c'est de l'errance totale, en fait. On ne sait pas où aller, ni qui appeler, c'est plus à jour, le numéro ne marche plus. Enfin, ça peut être assez complexe, en fin de compte, surtout qu'on est généralement bien épuisé quand on est aidant. Donc voilà, tout l'enjeu est de faciliter ce parcours-là. Depuis maintenant bientôt 3 ans, on a réuni énormément d'acteurs de l'aidance associatifs, APF, UNAFAM, Ligue contre le cancer, la lutte contre la sclérose en plaques, voilà, différentes structures associatives qui sont autour d'une pathologie ou autour d'un public, dans le grand âge par exemple, le département, la ville, les institutions, pour comprendre qu'est-ce qu'on pourrait, en tant que territoire, faire pour que ce soit un territoire aidant aux aidants. Du coup, faire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut co-construire un territoire aidant aux aidants avec toutes les structures. Donc ça veut dire mailler et trouver les trous dans la raquette.
Alors c'est quand même assez étonnant de se dire que finalement, il n'existe pas de répertoire sur la question dans les institutions, villes, communautés de communes, départements.
Il est très difficile de le tenir à jour. C'est excessivement compliqué de connaître toutes les structures, parce qu'en fin de compte, on est au bord de plusieurs univers, le social, le médico-social, c'est vraiment la croisée de plusieurs univers, et c'est vraiment très compliqué de pouvoir tenir un annuaire à jour, sans lieu totem, entre guillemets, qui permet de fédérer les différentes structures sur cette question.
Alors, vous parliez tout à l'heure de l'hôpital et finalement des personnels soignants, et en utilisant ce terme, cette déshumanisation apparente. Expliquez-le, s'il vous plaît, de votre point de vue.
Le travail dans le champ de la santé, sans sens du métier, détruit les personnes qui le font. quand on enlève le sens du métier à un médecin ou à un infirmier, ça va avoir des vrais impacts négatifs sur sa qualité de vie au travail en tant que professionnel de santé. Et ça va l'amener aussi à ne plus pouvoir faire correctement son métier et à en souffrir de ne plus pouvoir le faire correctement. Donc la déshumanisation pour un professionnel de santé, c'est lui infliger une certaine forme de souffrance. Maintenant, tout le monde est plus ou moins au clair là-dessus. C'est pas un débat, tout le monde est d'accord. Mais la vraie question, c'est comment on fait ? Comment on fait quand on n'a plus de professionnels de santé qui viennent parce qu'on est en manque de professionnels de santé ? Mais en même temps, en parallèle, dans les formations infirmières, en troisième année, il y a les 50% qui ont démissionné. Donc c'est une réflexion dont chaque acteur souhaite apporter des billes, mais c'est une thématique plutôt écosystémique qu'une somme de problèmes d'acteurs.
Alors effectivement, en plus, cette question-là, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, et voilà, le grand public entend qu'il faille faire des efforts, et puis nos dirigeants n'en font pas. Et ça, vis-à-vis aussi de ces personnels soignants, j'imagine que c'est des discussions que vous pouvez avoir aussi avec eux.
C'est... En fait, dire que ce serait simple, ce serait mentir. C'est l'une des problématiques pour, que l'on pense chez Dana Eker dans le système de santé actuel, c'est la défiance. Il y a une défiance entre les patients et les soignants. Il y a une défiance entre les infirmiers et les médecins. Il y a une défiance entre les médecins généralistes et les spécialistes. Il y a une défiance entre les anesthésistes et les chirurgiens. Après, il y a une défiance avec les managers. Après, il y a une défiance avec les institutions. Et il y a des alliances de principes très courts dans le terme pour taper sur l'autre. Mais en fin de compte, il n'y a pas de démarche commune pour protéger le système de santé publique ou travailler sur cette question de la déshumanisation. Par contre, dans tous les endroits où nous sommes allés, là où il y avait vraiment la défiance et des tensions réelles internes, à partir du moment où on parlait de la déshumanisation de la santé, on se retrouvait avec des professionnels de santé qui étaient en larmes, des managers et des cadres qui étaient en larmes, et des infirmiers qui étaient en larmes, et des médecins qui étaient en larmes, et des patients qui étaient en larmes. Donc c'est au moins un sujet qui met tout le monde d'accord pour réfléchir à comment est-ce que collectivement on peut avancer et arrêter du coup ces conflits latents et cette défiance perpétuelle.
Dans la création d'Anna Eker, il y avait cette notion d'aller découvrir aussi dans le monde ces systèmes de santé. Est-ce que on peut prendre une expérience qui a lieu à l'étranger et la réaliser ici? On vante le système de santé français comme un des plus efficaces, on va dire. Mais voilà, vous, est-ce que aussi vous êtes force de proposition dans ces domaines-là?
Il y a trois grands champs d'action. Il y a la formation, l'organisation et la pratique, pour résumer. Dans le champ de la formation, nous, on cite souvent l'Uruguay, qui est un tout petit pays coincé entre le Brésil et l'Argentine. On parle très peu, hormis que c'est un paradis fiscal, et que c'est la Suisse de l'Amérique du Sud. Le contexte démographique est un petit peu différent. On va dire qu'il fait 800 km par 800 km, presque comme la France, mais tout est centralisé dans la capitale. Je ne sais plus les chiffres, mais c'est une très grande majorité de la population qui habite dans la capitale. Et ils ont agi sur la formation et l'organisation. Au niveau de la formation, ils ont intégré la relation humaine dans la santé dès la première année. Et tous les cours s'articulent sur ce que je suis en train de faire, humanise ou déshumanise ma relation. Dès la première année. Ça a été expérimental, et maintenant ça fait 15 ans que cette formation a été amorcée dans une université de médecine, faculté de médecine en Uruguay. Et on commence à voir les effets positifs sur les professionnels de santé. Aucune démission, meilleure relation avec les collègues, meilleure relation avec les patients, prescrivent moins de médicaments, parce qu'en fin de compte, plus la consultation est courte, plus la prescription est longue. Et tout ça a des impacts économiques et sociaux super intéressants. Donc ça peut être intéressant de s'en inspirer ici en France. Il y a une réforme quand même de la formation des acteurs de la santé qui tend un petit peu vers ça tout de même, il faut le reconnaître. Maintenant, sur le plan de l'organisation, j'aime bien les Uruguayens, sur le plan de l'organisation, ils étaient surchargés dans leurs hôpitaux. Les urgences étaient tout le temps surchargées. Donc ils ont décidé de payer des chauffeurs aux médecins généralistes. Et le médecin généraliste, il reçoit le matin sa liste de patients qu'il doit aller voir. Il est payé sur une base forfaitaire de 7 patients par demi-journée. S'il en fait plus, il gagne plus. S'il en fait moins, il est payé pareil. Mais par contre, il y a son chauffeur qui vient à sa porte le matin et qui l'amène chez chaque patient. Ce qui permet du coup, en tant que médecin généraliste tout de même, de voir dans quel contexte la personne évolue, de pouvoir proposer des soins réalistes et aussi éventuellement de faire un peu plus de prévention et de toucher aussi la famille. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et du coup, on peut se dire, mais payer un chauffeur à un médecin, ça coûte ultra cher. Et ils ont réussi, ils ont eu le courage déjà de le faire avant d'avoir mesuré tous les impacts. Et ils ont mesuré les impacts sur le fait d'avoir déchargé les urgences, de diminuer le taux de passage aux urgences dans les hôpitaux et de faire une meilleure prévention. On fait énormément d'économies. Et en plus, on a créé des emplois.
Exemple à suivre.
Alors, intéressant.
Effectivement, cette notion-là, c'est dans une autre mesure, vous allez le réaliser avec l'escale des aidants et le fait d'aller auprès des personnes, dans les villages, etc. Et ça fait un peu le lien avec les différentes tables rondes qu'on a eues, et notamment celle d'hier après-midi, c'est redonner vie à un village par l'installation d'une activité économique. Les déserts médicaux, on en parle. Voilà. Vous y allez, vous allez y aller. À quelle fréquence? Qu'est-ce que vous avez déjà prévu un planning, entre guillemets et puis, ça sera des rendez-vous réguliers. Expliquez-nous un peu.
Donc, au niveau de l'escale des aidants, donc, il y a effectivement le lieu physique qui accueille et oriente et permet aux acteurs de co-construire. La plateforme numérique qui oriente et qui cartographie l'ensemble des actions d'un point de vue local où on habite. Et les équipes mobiles, où une fois par semaine, nous allons aller dans les petits villages et faire du porte-à-porte. Donc on va mettre certainement quelques années à faire le tour du département. On compte aussi, bien sûr, faire de la communication à l'échelle locale et toucher les acteurs type pharmaciens, médecins généralistes, la mairie, les petits commerces de village et de proximité, pour pouvoir communiquer sur, en fin de compte, vous prenez soin d'un proche, vous êtes peut-être aidant et ça vaut peut-être le coup de vous renseigner avant d'être vraiment trop épuisé.
Voilà, faudra-t-il encore trouver des commerces ouverts dans ces villages et des relais institutionnels.
Comme quoi, les petits commerces des villages sont aussi ça peut aussi être des acteurs de la prévention santé, et il ne faut pas minimiser ça.
Le lieu physique va être à quel endroit?
Au 29 rue de la Visitation à Saint-Étienne, pour anciennement Maison Saint-Antoine pour les Stéphanois.
Dana Ecker, quelles sont aussi ses actions dans l'avenir, au-delà de cette escale des aidants?
Donc l'escale des aidants va ouvrir ses portes donc en février et va être implantée dans le tiers-lieu santé que Dana Ecker a ouvert. Dans ce tiers-lieu, on va pouvoir accueillir des porteurs projets santé, associatifs et entrepreneuriaux en économie sociale et solidaire. Et on va pouvoir, en fin de compte, avoir un écosystème où on va rencontrer le monde universitaire, sociaux, entrepôts, économie de la santé, management des organisations de santé, santé publique. On va pouvoir rencontrer le monde associatif, une quinzaine 15 à 20 associations, le monde de l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire et associatif en tant que porteur projet dans le champ de la santé. Et l'objectif, c'est que ce tiers-lieu santé, qui du coup ouvre ses portes, soit une vraie... Un lieu identifié et identifiable pour tous les porteurs de projets et leur éviter de faire du porte-à-porte pendant un an ou deux pour essayer de comprendre qui fait quoi comment et de pouvoir rapidement développer des projets.
Et la place des institutions là-dedans, elle sera où?
Grande. Les différentes institutions de la santé et territoriales sont vraiment intéressées pour venir participer.
Le suivi que vous avez avec ces grands ensembles, les institutions, municipalités, communes, etc. C'est des réunions régulières, c'est des entretiens réguliers, c'est des conseils, c'est quoi?
C'est par projet.
C'est des projets.
C'est par projet. Par exemple, l'idée d'une maison de répit. Pour développer une maison de répit, il faut réunir les différents acteurs de l'aidance en fonction des pathologies, si c'est transpathologique tous. Et à partir de là, on peut co-construire un dispositif adapté au territoire qui n'est pas hors sol. Nous, notre objectif à nous est surtout de mettre en lien l'ensemble des acteurs pour pouvoir répondre à des problématiques et des thématiques communes au service du territoire.
Eh bien, écoutez, merci André Simonet d'être venu au micro de Radio Ondaine et de Radio Dio pour nous présenter donc l'escale des aidants et puis les actions de Dana Ecker. Merci, bon après-midi.
Bon après-midi, merci.